Bonjour frère et sœur, excusez-moi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, j'étais pris par d'autres affaires, et donc je n'ai pas pu venir vous voir, et ça fait plaisir de vous voir maintenant, aujourd'hui. J'ai à cœur de vous parler de quelque chose qui bien sûr me saisit moi, mais ça vous saisit vous aussi. Comment dire, le titre, ça pourrait être, je ne sais pas, de ce message, c'est on aime bien maîtriser les choses. Qu'est-ce qu'on aime bien maîtriser les choses? Et c'est normal. Une épouse, elle va être assurée parce que son mari est parti au travail. Quelque part, elle maîtrise un peu sa situation, son foyer. Elle sait où est son mari, etc. Le mari peut faire la même chose. Il dit, ma femme, elle est partie en course. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah si, si, elle a fait ça, ça. Bon, ça va. Je suis content, les choses sont dans ma tête, je vois tout, c'est bien. Ou alors mes enfants, ah mes enfants ils vont pas bien, il faut absolument que je les mette dans un bocal, parce que sinon ils vont être agressés par le monde, etc. Et donc il faut que je maîtrise mes enfants, c'est pas, ou mes parents. Enfin bon bref, vous voyez, on a tendance à faire ça, parce que le Seigneur nous a donné des capacités pour maîtriser, c'est bien. Si vous êtes dans un avion, et que le pilote vous dit, je ne maîtrise pas trop l'appareil, je ne sais pas comment c'est la première fois que je le fais, on n'a même pas eu de formation, etc. Vous allez vous dire, je voudrais bien descendre, mais à 11 km d'altitude, ça va être difficile. Si vous êtes avec un chauffeur qui n'a pas son permis, c'est la même chose. C'est bien la maîtrise. Et nous sommes partis souvent dans l'idée qu'il faut tout maîtriser. Et moi, je suis comme ça. J'ai tendance à être comme ça, à te dire, voilà, je suis content parce que je maîtrise tout. C'est prétentieux, mais c'est un peu ce qu'on fait, enfin ce que je fais. Quand vous êtes professionnel dans une entreprise où tout doit être maîtrisé, vous essayez même de maîtriser l'imprévu. J'étais dans une boîte où c'était comme ça, on maîtrisait l'imprévu. On avait des systèmes électroniques et électriques qui permettaient même de maîtriser l'imprévu, tout à fait. En se disant, il n'y aura jamais d'accident. Bon, oui, mais en fait, on ne maîtrise pas tout. Alors, le titre que je pourrais donner, je crois que c'est le mieux, c'est « Trois jours et trois nuits ». Quand vous regardez dans la Bible, vous apercevez que ce terme « trois jours et trois nuits » est inscrit dans pas mal de livres de la Bible, sans que les auteurs de ces textes se soient mis d'accord pour mettre ces trois jours et trois nuits. Il y a comme un symbole derrière cette notion de trois jours et trois nuits. Bien sûr, ça vous évoque probablement Jonas, ça vous évoque le Seigneur Jésus, mais vous avez certainement aussi d'autres idées sur les trois jours et trois nuits qu'on trouve dans la parole de Dieu, et c'est ce que nous allons voir. Et dans ces trois jours et trois nuits, figurez-vous que les gens ne maîtrisent pas ce qui arrive. Ils ne maîtrisent pas totalement ce qui leur arrive. Dieu dit, tu vas faire ça, et ils vont le faire. Ils disent, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va finir comment? Et je suis là, avec la certitude que Dieu a demandé de faire ça, et je ne sais pas du tout où est-ce que Dieu va m'envoyer. C'est terrible. Donc je vous le dis par rapport à ma situation, peut-être à la situation d'Arlette par exemple, ou d'autres personnes ici présentes qui sont confrontées à un événement et qui n'arrivent pas à le maîtriser. Et c'est Dieu qui leur impose. On pourrait mettre aussi un autre titre à ce message, c'est la foi apparemment absurde. La foi apparemment absurde. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça pourrait être aussi aller à contre-courant. C'est le thème, normalement, du message du dimanche de l'Église persécutée qui est aujourd'hui. Mais je n'ai pas préparé, j'ai rien préparé de diapo. Mais enfin, nos frères et sœurs qui sont dans la détresse sont aussi un peu souvent dans cette situation. Punaise, je dois faire ça. Je suis dans cette situation-là et je ne vois pas l'issue. Et cette issue, même si Dieu me l'a promise, je suis dedans. Est-ce que vraiment elle va exister? Est-ce que vraiment ce qu'il m'a dit, ça va se faire? C'est facile, hein? Quand après on est passé, puis que finalement ça s'est bien passé. Mais quand on est dedans, C'est pas évident. Nebuchadnezzar, par exemple, dit « Je vais tuer tous les sages de Babylone. J'en ai marre, ils sont en train de se moquer de moi. Parce que j'ai eu un rêve, je ne sais plus quel est ce rêve, mais ils doivent le savoir. » Et puis, voilà que Daniel vient le voir, et dans la foi qu'il place en Dieu, il dit « Laisse-nous de temps de pouvoir consulter mon Dieu, qui peut-être me donnera la réponse. » Mais il n'en sait rien du tout. Il n'en sait rien du tout. Alors, il n'est pas marqué ces 3 jours et 3 nuits pour Daniel et ses amis. Hein. Mais Daniel va voir ses amis et dit, il faut compris. Il faut compris. On ne sait pas du tout ce qu'il y a eu comme rêve, ce Nebuchadnezzar complètement fou. Mais si on ne veut pas mourir, il va bien falloir que Dieu nous révèle. Et s'il ne nous révèle pas, c'est foutu. Donc, priez. Qu'on se mette à prier pour que je puisse le savoir. Et puis Daniel, il est heureux. Vous voyez la façon dont il exprime sa joie lorsqu'il sait ce qu'était le rêve de Babylone, enfin de Nebuchadnezzar. Il est heureux parce que il aurait pu passer par une mauvaise porte, hein, parce que aller voir le roi et lui dire, tu sais, je vais pouvoir peut-être te dire ce qui s'est passé, et puis que si Dieu ne l'avait pas répondu, c'est le premier qui serait exécuté, hein, ça c'est sûr. Voyez, imaginez l'apôtre Paul, il arrive à Damas, il n'est pas encore l'apôtre Paul, et puis il est foudroyé et il est aveugle, a priori, pour toute sa vie, aveugle. Puis Ananias vient le voir 3 jours plus tard. Cette notion de 3 jours, on la trouve partout. Curieux, c'est comme ça. Voilà. Et puis il y a des écailles qui tombent de ses yeux et... Vraiment, les écailles de ses yeux spirituels sont tombées également. Voilà. C'est le chemin étroit et incertain dans lequel parfois le Seigneur nous met. C'est pas le chemin large où on est certain parce qu'on est parti sur l'autoroute de tout ce qui est tout à fait normal et où on maîtrise tout et où on a les panneaux qui nous permettent d'aller jusqu'à destination. Aucun souci, tout va bien. Parfois, le Seigneur nous met dans d'autres situations pour nous aider dans notre foi. Mais quand on est dedans, c'est pas rigolo. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous dans la méditation de sa parole. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans l'incertitude de l'avenir, l'angoisse de ce que Dieu semble vous réserver? Vous voyez bien que Dieu désire ça en plus, ce quelque chose-là. Et ce quelque chose est angoissant. Jacques chapitre 1, verset 2, vous connaissez, il nous est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Ça veut dire des choses que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas maîtrisées et qui vous arrivent comme ça, comme à cheveux sur la soupe, de manière absurde. Et vous me disiez « Mais Seigneur, mais comment ça se fait que tu permets une chose pareille ?» Mais c'est comme ça. Alors, certains disent les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, des fois, c'est même pris dans certains films où on a l'impression qu'on se moque de Dieu. Et Dieu nous met dans des situations improbables dans lesquelles notre foi est titillée. Hein? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la fermeté, la solidité. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Et ça passe par quelque chose qui est de l'ordre du hasard ou de l'incertitude. Le hasard n'existe pas. Dieu... Excusez-moi. Dieu est en dehors de tout ça. Alors nous allons prendre des exemples où nous voyons cette angoisse. Parfois à mots couverts, où la personne se pose la question, est-ce que je dois encore faire confiance à Dieu? Est-ce que je peux encore faire confiance à Dieu? Malgré ce qui m'arrive, que dois-je faire? Alors le premier, bien sûr, le premier que j'ai choisi, vous en avez peut-être d'autres, c'est Abraham. Abraham est à la fin de sa vie. Genèse 22, versets 3 et 4. Il passe 3 jours dans l'incertitude, parce qu'il part de Beersheba, et il va aller au mont Moria, qui est dans le nord d'Israël. Et puis, il prend son fils et on lui a demandé quelque chose, Dieu lui a demandé quelque chose, et vous connaissez l'histoire. Dieu lui demande d'offrir son fils, le fils de la promesse, en holocauste. Et donc, mettons-nous à la place d'Abraham, qui n'est pas... Nous, ça va, hein, on est content parce que on sait qu'il y a eu un bouc qui a été mis en substitution juste au moment où il allait baisser son poignard sur son fils, hein, qui était ligoté sur l'autel. C'est facile. On s'est dit, bon, ben... Oui, mais c'était prévu. Oui, mais d'accord. Mais quand Abraham est dans cette période des 3 jours et 3 nuits, de bon matin, il a eu la révélation de Dieu à un moment donné, et de bon matin, donc juste après avoir eu ça, je ne sais pas s'il a bien dû dormir, mais en tout cas, de bon matin, il est parti. Et ça met 3 jours pour aller jusqu'à Moria. Dans la soirée, il arrive à Moria, et là, il va falloir bien que, finalement... Il s'est peut-être dit plein de choses, peut-être que le Seigneur va permettre que ça soit différent, que non, jusqu'au moment où il va descendre le poignard sur son fils, à ce moment-là, Dieu l'arrête. Vous voyez, j'essaie de vous faire, enfin, je crois que vous le comprenez, cette incertitude dans laquelle Dieu l'a mis. Lui, le fils de la promesse, il fallait qu'il le tue. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, mais on sait très bien que... il savait que Dieu est capable de ressusciter ce fils qu'il va égorger. Hein, c'est ce qu'il nous est dit dans l'épître aux Hébreux. Oui, il le savait. Probablement que ça a dû gamberger pendant ces 3 jours. On ne peut pas se mettre à sa place, mais vous voyez tout ce qu'il y a pu y avoir comme tumulte dans son cœur. C'est ce qui arrive, et c'est ce qui arrive parfois. Ce qui peut vous arriver parfois. Ce qui peut m'arriver parfois. Hein, voilà. Quand on est dans l'instant, sans aucune certitude sur l'avenir, c'est autre chose. Je vais vous prendre un autre exemple où il faut faire confiance à quelqu'un sans savoir si on a bien fait de placer sa confiance en cette personne. Surtout que elle est louche, la personne. Ouais. Josué, chapitre 2, verset 16. Les espions de Jéricho ont été cachés par Rahab. Et parce que les gens de Jéricho sont sur le pied de guerre, ils savent qu'il y a deux espions israéliens, hébreux, qui sont passés. Ils savent même chez qui ils ont été. Et donc, ils cherchent. Et je vous assure que ça a l'air d'être des gens très, très compétents et qui courent après les deux espions. Et ils savent à peu près où est-ce que les deux espions s'en vont. Ils s'en vont du côté du Jourdain, à l'est du Jourdain, hein, puisque Jéricho est à l'ouest du Jourdain. Et donc, ils vont chercher partout. Et Rahab leur a donné une bonne idée, c'est d'aller de l'autre côté. C'est d'aller dans la montagne de l'autre côté et de rester dans la montagne 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces dieux espions? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'on a eu confiance en Rahab? Est-ce qu'on a bien fait de faire confiance à Rahab? Parce qu'on est carrément dans une nasse. On est de l'autre côté du peuple d'Israël. Il y a le Jourdain, il y a Jéricho, la montagne côté ouest. Et si jamais elle nous dénonce, on n'en sait rien. Elle nous a peut-être posé un lapin, comme on dit. Et ils ont dû, pendant 3 jours et 3 nuits, se dire, mais est-ce qu'on a bien fait de faire confiance à Rahab? Oui. Ils sont revenus, les soldats, et ils sont rentrés en Jéricho. Probablement que les deux espions les ont regardés. Ils ont dit, bon, c'est bon, on peut y aller, on peut ressortir. Vous voyez, cette notion... Ils étaient bien cachés. Ils avaient eu raison de croire en l'honnêteté de Rahab. Mais ce n'était pas gagné d'avance. Il y a toujours une possible incertitude. Et là, nous sommes secoués, interpellés. On se dit, est-ce que j'ai bien fait de faire confiance? Un autre exemple. Dans Chroniques, le premier livre des Chroniques, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est un truc où il y a aussi 3 jours et 3 nuits. Curieux, hein? Et alors ça, je vais le prendre parce que il y a quelques lectures à faire. Alors, un chronique 12. David va être le roi d'Israël. Pourtant, il y a déjà un roi. Mais ce roi file du mauvais coton, Et Dieu a choisi un autre roi, ce qui fait qu'il y a deux rois. Dieu n'a pas retiré la royauté à Saül et projette de donner la royauté à David, ce qui crée un conflit terrible. Les gens de Benjamin, puisque Saül est de la tribu de Benjamin, sont tous pour Saül, a priori. Ah bon ? Mais regardez au chapitre 1 du verset 12, il dit « Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche et tirant des flèches avec leurs arcs. Et retenez bien ça, ils étaient de Benjamin. Du nombre des frères de Saül. Quoi ? Même dans la famille de Saül, il y avait des gens de sa famille qui avaient déjà changé de camp. C'est curieux, hein ? C'est curieux. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le roi, à l'époque, c'était Saül. Eh bien, parmi même ces benjamites, proches de Saül, certains avaient choisi de refuser Saül comme roi. Il faut avoir la foi en Dieu pour faire ça, parce que à l'époque, Saül, c'est un homme costaud, très solide, très royal, très imposant. Et ils avaient décidé que c'était David, de la tribu de Juda, qui serait roi. C'est ce qu'on voit au verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Il y eut aussi, 1 Chronique 12, verset 16, il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa les paroles en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, et que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. » David n'est pas fou, hein. Tous ces gens de Benjamin, ils sont du côté de Saül, a priori. Eh oh, pas me raconter des carabistouilles, hein. Vous êtes pour Saül, hein. Vous venez simplement pour m'espionner, hein. Et à Amasai, verset 18, l'un des principaux officiers fut revêtu du Saint-Esprit. Ouais, du Saint-Esprit. Et il dit, nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et David les accueillit, et il les plaça parmi les chefs de la troupe. Spirituellement, David a compris qu'ils avaient changé de bord, par la foi qu'ils avaient en David et en Dieu. Ils savaient que c'était plus Saül. Ah oui, c'est facile, hein. C'est facile de faire ça quand on est de la tribu de Saül et de dire « Non, c'est pas Saül, c'est lui. » Il faudra avoir, bien sûr, hein, il faut avoir la foi pour changer de roi, parce que ce Saül, il est encore puissant. Et au verset 38, il nous est dit, verset 38, « Tous les hommes, gens de guerre, 1 Chronique 12, 38, « Tous les hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur, pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux, jusqu'à Issachar, Zabulon, Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. » Ils ont été dans la joie, mais leur foi a été absurde. Pour eux, c'était logique que c'était Saül le roi. Ils étaient de la tribu de Benjamin et de la famille proche de Saül. Eh bien, ils avaient changé. Ils étaient devenus des pro-David. C'est quelque chose d'absurde, de dangereux, de refuser Saül. Ça paraît fou de choisir David. Pourtant, c'est cela qu'ils font. Ils sont dans l'incertitude de l'avenir, c'est angoissant de risquer de tout perdre, et voilà qu'ils vont faire la fête, verset 40, pendant 3 jours. Tant pis pour l'incertitude de l'avenir. Un autre exemple. Néhémie, chapitre 2, verset 11. Néhémie, chapitre 2, verset 11. Il arrive à Jérusalem. Et donc, la traduction en hébreu, c'est plutôt... Enfin, vous allez voir. Néhémie arrive à Jérusalem, il passe 3 jours. Et qu'est-ce qu'il remarque ? 3 jours et 3 nuits, en fait. La traduction en français laisse supposer qu'il reste 3 jours à Jérusalem et puis qu'après, pendant la nuit, il va faire des... Non, mais en fait, pendant 3 jours et 3 nuits, 3 jours, il est là avec les grands de Jérusalem, et puis qui n'est plus une ville, hein, qui est juste un endroit où il n'y a pas de muraille, hein, un endroit pas sécur. Et pendant la nuit, secrètement, il va faire le tour. Il va faire le tour de quoi ? De la muraille. Et c'est quoi l'épreuve, là ? L'épreuve, c'est de réussir à voir au-delà du visible. Le chaos est total. Les pierres, les décombres sont indescriptibles. C'est pas possible. C'est foutu d'avance, c'est fichu d'avance. Les pierres sont là, mais comment on peut faire ? Il faudrait des bulldozers, des machins comme ça. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas. Comment peut-on imaginer que cette ville puisse revivre ? C'est absurde. C'est impossible. Et espérant contre toute espérance, en but aux ennemis du dehors et du dedans, Néhémie réussira à faire mentir l'impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un exploit. Tous étaient contre lui. Pendant ces 3 jours et 3 nuits, il ne s'est pas laissé abattre par la réalité de ce qu'il voyait. Il s'est dit, si, avec Dieu, c'est possible. Hein ? Vous voyez, ces situations-là sont extraordinaires. Parce qu'elles sont 3 jours et 3 nuits, on en trouve dans Genèse, on trouve dans les Chroniques, on trouve dans Néhémie, on trouve dans l'Évangile, dans les Actes. 3 jours et 3 nuits, c'est curieux. Un autre exemple, Esther. Esther, chapitre 4, versets 11 à 14. Esther, chapitre 4, versets 11 à 14. Je pense que Esther, c'est dans la Bible, hein. Esther chapitre 4, versets 11 à 14. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure. Il y avait la cour intérieure et la cour extérieure. Quand Haman vient réclamer de pendre Mardoché, un petit peu juste après, il n'est pas dans la cour intérieure. Et dans la cour extérieure. Cour extérieure, c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur. Cour intérieure, c'est vraiment un endroit où n'importe qui n'y est pas convié, est transformé en poupée vaudou, hein, pouf, avec les arcs et les flèches de tous ces gardiens qui sont là, c'est interdit. C'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Tous les serviteurs, verset 11, hein, chapitre 4, verset 11, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans y avoir été appelé. Celui-là, seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et là, elle nous signale quelque chose. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est pas normal, ça. Depuis 30 jours, Assuérus n'a pas, Xerxès n'a pas appelé sa femme. 30 jours. Il y a quelque chose là, hein. Quand on est dans l'instant du risque, on a peur. Hein. Esther n'a pas été appelée par le roi depuis un mois. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est probablement lié à la faveur que Xerxès donne à Haman, la gaguite. C'est pas trop, mais spirituellement, il y a quelque chose là. C'est risqué de venir s'imposer au roi. Il pourrait en profiter pour la supprimer. Dans les paroles d'Esther, on sent bien ça. L'inquiétude. Elle demande un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Ouais. De tous les juifs de Suse, la capitale. Et elle aussi, elle va jeûner 3 jours et 3 nuits. Versets 15 à 17. Du chapitre 4. Verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. On a du mal, hein, nous, tout ça c'est un peu de la culture différente de chez nous, hein. On ne s'imagine pas qu'on va aller voir le président, et puis que si jamais on n'a pas été invité, tout le monde va nous tirer dessus. Non, 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 c'est pas dans notre culture, mais là, c'était comme ça, c'était comme ça. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Imaginez, dans l'incertitude de l'avenir, que vous devez faire quelque chose et que vous sentez très bien qu'il faut le faire. Imaginez ce qui se passe. Facile après coup de dire, je savais que ça se passerait comme ça, moi, vous savez, moi je suis chrétien, j'ai la foi, hein, voilà, ça va se passer comme ça. Hein. Non, 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 quand on est dans l'incertitude de la situation de l'instant, c'est pas évident. Je vous donne un autre exemple, Jonas, chapitre 2, verset 1. Jonas, chapitre 2, verset 1. Alors, vous connaissez Jonas, hein, bien sûr, un grand poisson, enfin, c'est pas lui, hein, Jonas, hein, c'est celui qui est avalé par le grand poisson. Une baleine, un cachalot, enfin, on sait pas trop ce que faisait ce bestiau-là, à cet endroit-là, ça paraît curieux. On se demande si il n'avait pas été piloté par quelqu'un, hein, pour venir gober notre cher Jonas, qui, lui, n'avait pas envie d'aller à Ninive. Il avait de bonnes raisons. Des homosexuels, des zoophiles, des gens, enfin, c'est à mots couverts, c'est ce qui se passe, hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. C'est comme aujourd'hui, je veux dire, c'était légitime pour un homme de la trempe de Jonas de dire, Dieu, c'est pas possible que tu puisses faire une chose pareille et me faire aller dans un monde impie comme celui-là. Et donc, il veut pas, hein. Et alors, vous savez ce qui s'est passé, hein? Alors, il fut 3 jours et 3 nuits dans son ventre. On est tellement habitué à ces 3 jours et 3 nuits qu'on ne s'aperçoit pas que, je vous dis, dans la Genèse, un peu partout, et ça revient comme ça, de manière curieuse. Hein, voilà. Alors, versets 5 à 7, hein, on a la description de ce qu'il a vécu. Hein, vous le lirez si vous voulez, mais il a vécu quelque chose de terrible. Il est gobé par un poisson, il n'a aucune... comment dire ? Aucune idée de ce qui va lui arriver. Il n'imagine pas qu'il va pouvoir sortir de ce truc-là. Il va être digéré. La seule chose qui va lui arriver, c'est ça. Et il dit cela jusqu'à la fin du verset 7. Hein. À la fin du verset 7, c'est probablement après son aventure que Jonas dit cela. Parce que forcément, l'écrit de Jonas nous est arrivé après les circonstances qu'il a vécues. Hein. Et on voit dans cet engagement qu'il prend avec Dieu, que c'est suite à ce qu'il a vécu que vraiment maintenant il décide d'y aller. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait entrer dans la patte, d'ailleurs, hein, parce que quand il y arrive, il n'est pas encore vraiment dans un bon état d'esprit. Il n'a pas envie de le faire, mais il se voit contraint de le faire. Mais vous voyez, dans cette situation des 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il s'est trouvé dans une incertitude, dans une détresse immense, et c'est là qu'il a commencé à se dire, mais je t'aurai toi. Hein. Le début du verset 7, c'est, mais toi, Dieu, t'es toujours avec moi. T'es toujours avec moi. Je sais pas, enfin, si Dieu nous donne l'expérience de vivre dans un cachalot un jour, je sais pas si je réussirai à dire, je suis avec toi. Tu es avec moi. C'était fini pour lui. Avait-il raison de se confier en Dieu, lui, qui était si désobéissant? Oui, il revient en lui-même. Il est fichu. Mais même fichu, il place sa foi en Dieu. Même fichu. Et nous, quand il nous arrive un pépin, est-ce que moi, quand il arrive un pépin, je vais continuer à placer ma foi en Dieu contre toute espérance? Et vous savez que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 12, verset 40, prend l'exemple de Jonas pour illustrer par quoi lui-même va passer, pour montrer que Jésus lui-même a vécu des choses terribles. Oh oui, bien sûr, mais moi je suis chrétien, je sais que je savais, j'ai la foi, et puis je sais que Jésus, de toute manière, devait sortir. Oui, d'accord, oui, ça on le sait, bien sûr. Mais dans l'instant, quand Jésus se trouve dans cette situation, vous imaginez pas l'angoisse. On n'imagine pas l'angoisse qu'il a eue. Parce qu'en plus, cette angoisse est liée spirituellement au fait d'endosser l'horreur de l'humanité, de mon horreur, de ton horreur, de toute cette situation terrible. Eh bien, voilà que lui, il allait en transpirer. Il allait en transpirer des grumeaux de sang, nous est-il dit, parce que c'est pas des, en fait, on sait que ce n'est pas des grumeaux de sang, hein, les médecins sont formels là-dessus, c'est que quand on est dans une angoisse terrible, eh bien, nous avons la capacité de sécréter un produit, hein, les glandes sudoripares sont capables de produire un produit qui ressemble à des grumeaux de sang. Mais ce n'est pas du grumeau de sang vraiment, ça ressemble, mais c'est la sécrétion liée à une anxiété insoutenable. Hein. Et Matthieu 26, versets 37 à 39. 26, 37, 37, 37, 37 à 39. 26, 37, 39. Alors, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Vous savez où ils sont? Ils sont dans le jardin de Gethsémané. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Oh, enfin, Jésus, t'as pas la foi? T'es pas un bon chrétien? Oh, un bon chrétien, il a toujours la foi. Oui, d'accord. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que tu veux, mais ce non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis, vous savez, après, tout ce qui se passe, hein, ils étaient endormis tellement c'était la fin de la nuit, etc. Et ils n'avaient pas la force de continuer à intercéder pour lui. Il s'est retrouvé tout seul à intercéder pour lui-même. Hein. C'est facile à dire qu'il savait qu'il ressusciterait. Mais quand tu es dans la détresse et que l'issue n'est pas évidente, ça, c'est pas la même chose. Vous comprenez que un jour, où ça vous est certainement déjà arrivé, je vois certaines personnes que je devine, ils ont dû avoir ce genre de choses, où vous êtes dans l'incertitude, et Dieu vous laisse dans l'incertitude. Jacques chapitre 1, verset 2. Toutes les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être, par hasard, dedans, eh bien, c'est une occasion pour vous, pour moi, de dire, je maîtrise plus rien. D'habitude, je maîtrise, mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus que toi, Seigneur. Il n'y a plus que toi. J'ai plus rien d'autre. Ben oui, mais j'ai plus que toi, comme on dit quelquefois. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah ben nous, maintenant, on n'a plus que la prière. Sous-entendu, nous maîtrisions les choses, et puis maintenant, on ne maîtrise plus rien, donc nous n'avons que la prière. Ce qui est assez curieux, parce qu'en fait, ce qui est plus important, c'est justement ça. C'est pas que nous maîtrisions. Le Seigneur ne veut qu'on maîtrise les choses. Mais il y a des moments, il ne veut plus qu'on maîtrise les choses. Et que notre confiance soit placée uniquement qu'en lui. Ça, vous le savez, hein, mes frères et sœurs. Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, et nous en. Ce sera notre conclusion, si vous voulez. Hein. Hébreux chapitre 5, et quelque chose qui a déjà fait secouer, on en a parlé, Marie-France et Clémence ensemble. Et ça nous fait discuter âprement cette situation. Vous allez voir, hein, dans Hébreux chapitre 5, versets 7 et 8, Hébreux 5, 7 et 8, n'est-ce pas, on sait que c'est lui le sacrificateur, c'est vrai, c'est lui le souverain sacrificateur, celui qui a payé de sa vie pour moi, pour toi. Il est le souverain, il n'y a pas un au-dessus, donc c'est lui. Et il a dit, pourtant, c'est lui, verset 7, chapitre 5 d'Hébreux, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il fût fils, qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire que dans toutes ces situations que nous avons vues, hein, Abraham, Esther, les Benjamites qui sont pour David, etc., ils ont tous, à un moment donné, lâché, accepté l'absurde, lâché leur façon de voir, et ils ont dit, il n'y a plus que toi, Dieu. Hein. Et bien, Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, c'est-à-dire que tout support, et pourtant le Seigneur Jésus en avait du support, de la maîtrise, il faisait des choses, des miracles, etc. Il aurait pu utiliser sa propre solidité charnelle, et quand je dis charnelle, ce qui vient de la chair, et qui est chair, et ce qui est né de l'esprit, et qui est de l'esprit. Et là, il a dissocié les choses. Il savait maîtriser des choses au niveau matériel, à tel point qu'il pouvait arrêter la tempête, hein, ok. Mais il y a des choses où le Seigneur lui-même, son Père, lui a appris l'obéissance, c'est-à-dire de lâcher toute sa maîtrise légitime, d'être un bon pilote, d'être le meilleur des gestionnaires de ce monde. Il aurait pu l'être, hein, c'est ce que d'ailleurs Satan a voulu lui proposer. Hein. Tu seras le meilleur gestionnaire du monde. Il faut simplement que tu prosternes devant moi et que tu m'adores. Mais il l'aurait été. Et bien, il a laissé tomber toute sa nature sans péché. Légitime. Il aurait pu être le seigneur de la terre. Il a tout lâché parce qu'il nous a aimés et qu'il a dit, je fais confiance à mon Père. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il fût fils, qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est lié à cette foi possible et apparemment absurde de ne faire confiance qu'à Dieu et de lâcher tout. Voilà, je veux vous laisser là-dessus, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit incompétent et que nous lâchions tout ce que nous maîtrisons. Il faut bien quand même gérer son foyer, gérer plein de choses, bien conduire la voiture, faire programmer des vacances, et tout ce qu'on veut, c'est sûr. Et il y a un moment donné, Dieu nous met, Dieu nous place dans une situation où tout ça, on doit lâcher. Et il n'y a plus qu'en Dieu qu'on peut placer sa foi. On peut se réjouir de ce que le Seigneur permet, une chose pareille. Je dis pour moi, mais pour vous aussi. Pour que notre foi soit magnifiée, si on veut dire. Ce n'est pas quelque chose où on attrape une médaille, hein, qu'on est des gens bien, quoi. Hein. Non, c'est quelque chose que Dieu veut construire en nous. Quelque chose qui est du mystère, qui est spirituel. Et qui nous fait dire au Seigneur, ben, il n'y a que toi. Voilà. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne suite. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui a montré par ta parole de manière un peu mystérieuse, parce que ces 3 jours et 3 nuits, on en voit des histoires comme cela un peu partout dans la parole. Et nous voulons te remercier de ce que tu les as mises pour nous faire comprendre que la foi que nous plaçons en toi n'est pas liée à nos capacités, mais elle est liée à la vision que nous avons de toi-même. Tu es le seul en qui nous pouvons faire confiance. Tu nous l'as montré, ton Fils bien-aimé lui aussi est passé par cette obéissance et il a lui-même accompli cette expiation qui nous permet d'être entièrement libérés et de vivre de cette façon avec toi. Merci Seigneur, parce que ce que tu veux le plus, c'est une communion de foi et de confiance indéfectible en toi, malgré tous les événements dans lesquels tu nous places. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Amen.